troisième temps ce soir d'une série d'entretiens avec l'historien et archéologue Paul Venn, en partenariat avec les hors-séries du magazine Le Point, à l'occasion d'un numéro du Point, donc sur la Rome antique. Lundi, après avoir évoqué la méthode de l'historien, nous avons parlé de la fondation de l'Empire romain. Mardi, c'est de l'héritage grec qu'il fut question. Aujourd'hui, à partir d'un livre massif intitulé « Le pain et le cirque », c'est des divertissements, de l'évergétisme et en somme de la vie quotidienne à Rome qu'il sera question. La formule du pain et des jeux, ou du pain et du cirque, est une formule de Juvénal.
Oui.
Paul Venn. On le sait moins d'ailleurs. Hein. On connaît cette formule qui est finalement la clé du divertissement ou de la machine à endormir le peuple.
Oui.
Et on l'applique à foison au peuple romain. Et vous faites l'archéologie et en même temps vous en examinez les détails. Donc l'archéologie de cette formule dans votre livre intitulé Le pain et le cirque, justement. Sous-titre Sociologie historique d'un pluralisme politique. Paul Venn, dans quelle mesure le pain et les jeux servaient à, pour reprendre l'expression de Coin de Curse, domestiquer la multitude à Rome?
Elle ne servait nullement à domestiquer la multitude, qui du reste, loin d'être domestiquée, prétendait, quand elle était le peuple de la ville de Rome, avoir le droit de dire son mot dans le choix d'un empereur. On ne saurait imaginer formule aussi fausse. Pour comprendre sa fausseté, il suffit de rappeler qu'au temps du Front populaire, un député de droite a parlé du hideux matérialisme des masses et qu'on ne cesse de stigmatiser notre époque qui se détourne des vraies valeurs, des vraies choses importantes pour les plaisirs de la société de consommation et du spectacle.
Donc vous voulez dire que le peuple romain n'était pas... on pouvait pas l'endormir avec ça?
Il n'était nullement endormi. Le peuple romain intervient quelquefois les armes à la main dans la nomination d'un empereur, et quand un empereur ne lui plaît pas, il le hue en plein cirque, collectivement.
Mais est-ce qu'il ne faut pas voir là, pardon, mais pour reprendre alors pour le coup la conversation qu'on a eue précédemment, est-ce qu'il ne faut pas voir là les ferments justement d'une démocratie possible? Vous avez dit
autrefois
que Rome n'était en rien une démocratie.
Oui, d'une démocratie par la force et par les mouvements de huée. Une démocratie des manifestations... et quelquefois des révoltes en règle.
Donc on manifestait pour réclamer finalement une autorité plus ferme.
On manifestait parce qu'on ne voulait pas... Non pas, parce qu'on ne voulait pas de cet empereur. L'empereur s'est fait battre à la guerre. Il se fait huer. Pire encore, l'empereur s'est fait empereur au cours d'une guerre quelque part en Syrie et ne daigne pas venir à Rome s'y faire reconnaître, s'y faire saluer par le peuple de Rome. Résultat, dans le cirque, on ne cesse de hurler contre l'absence de l'empereur. Le peuple de Rome, de la ville de Rome, la plèbe, n'a cessé de se considérer comme le vrai pouvoir.
Et alors, est-ce qu'on peut néanmoins insister sur la dimension, alors sur ce qu'on appelle, c'est un mot d'ailleurs dont on connaît peu le sens, et dont chacun sait qu'il existe et dont on connaît peu le sens, la pratique de l'évergétisme à Rome. En quoi consistait-elle? Puisque la structure politique même romaine et l'administration reposaient sur l'évergétisme. D'abord, de quoi s'agit-il?
Eh bien, c'est que, outre les impôts, qui pour les riches n'étaient nullement très pesants, les riches, pour garder leur position de prestige et de suprématie, étaient obligés de dépenser largement leur fortune à faire des cadeaux au peuple, que ce soit en lui donnant des spectacles de gladiateurs ou que ce soit en faisant construire des bâtiments pour le plaisir du peuple, par exemple des thermes. Il suffit de songer que tous les amphithéâtres, tous sauf un, ont été construits par des particuliers à leurs frais. L'amphithéâtre de Lyon, c'est l'équivalent d'un particulier qui, de nos jours, ferait construire un grand barrage.
Donc ça veut dire que les Romains, au moins, inventent l'idée qu'avec un grand pouvoir, le pouvoir que donne l'argent, vient de grandes responsabilités.
On peut dire responsabilité parce que ce n'est pas qu'ils achètent le peuple avec cet argent, c'est que le peuple exige qu'il verse. Si vous voulez, l'évergétisme n'est pas seulement un potlache. Laissons le potlache.
Non, le potlache, il faut rappeler, parce que vous le citez, c'est Marcel Mauss qui pense le potlache en particulier, c'est l'idée que un cadeau invite à un cadeau supérieur et ainsi de suite, et Marcel Mauss fait du potlache quelque chose finalement plus une menace qu'autre chose en somme.
Il y a des sociétés, dit Marcel Mauss quand il parle de potlache, comme vous avez raison de me le rappeler, où les riches manifestent leur richesse en faisant des cadeaux au peuple. Mieux encore, ils peuvent manifester leur richesse en détruisant des richesses, en jetant dans un lac des plaques d'étain, métal précieux. Les Romains font ça, et les Grecs. Les Grecs leur ont donné l'exemple de le faire, et les Romains le font. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que ils ne font pas ça seulement par bonté d'âme, ils font ça pour garder leur position, si bien que ce don volontaire, en réalité, est sollicité. Si quand un riche va au Sénat ou bien va au conseil municipal de sa cité, on lui dit « L'Empire est tellement prospère en ce moment, la richesse qui règne, comment toi, un tel, ne donnerais-tu pas l'argent qu'il faut pour recevoir dignement l'empereur ?» Et le riche est obligé de donner. C'est un don, en fait, forcé s'il veut maintenir sa position.
Cette forme de désintéressement, ou même de désintérêt, puisque pour le coup les deux mots sont synonymes, rappelle un texte de Sénèque, d'ailleurs indûment décrié, présenté comme un texte mineur de Sénèque, à tort à mon avis, qui est le texte sur la vie heureuse de Sénèque, dans lequel Sénèque justifie le fait d'avoir de l'argent. Et en expliquant d'ailleurs à ses détracteurs, qui lui reprochent son stoïcisme et sa richesse à la fois, en disant que ceux qui lui reprochent d'avoir de l'argent, ce sont eux qui aiment l'argent, alors que lui qui en a, il pourrait s'en passer. À quoi d'ailleurs on pourrait répondre à Sénèque qu'il ne tiendrait probablement pas ce discours s'il n'avait pas d'argent.
Oui. Et ce que je voudrais savoir, c'est si Sénèque a fait beaucoup de dons, a dépensé beaucoup d'argent pour le public. Comme il n'a pas été candidat à des magistratures, je ne sais pas trop.
Alors, on peut lui opposer la façon qu'il avait de conduire son existence, mais enfin, peu d'individus, alors là, pour le coup, on peut quand même parler d'un philosophe à part entière,
de plein droit. La préparation à la mort n'a pas été du tout une plaisanterie. Il a été philosophe à part entière en cela.
Oui, alors il faut rappeler hein, que Sénèque s'est suicidé, contraint et forcé.
Contraint et forcé, mais il savait que de toute façon ça arriverait, et il y a eu des exercices de préparation à la mort chez lui.
Parlons des stoïciens un instant, puisqu'on parle de Sénèque, Paul Venn. Les stoïciens, je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Les stoïciens font du suicide, la possibilité de se suicider, une conquête toujours possible de sa liberté face aux condamnés. Quoi qu'il arrive, je peux toujours mettre un terme à mes jours.
Et ils ont raison.
Baisser le rideau, etc. Alors, effectivement, néanmoins, est-ce qu'on ne peut pas dire que ce soit le cas de Caton ou de Sénèque, oui, pour citer deux suicidés célèbres, que à chaque fois, le suicide, loin d'être le signe d'une liberté, relève d'abord, tout simplement, d'une acceptation de la nécessité et des contraintes qui vont autour. Ceux qui se sont suicidés l'ont peut-être fait au nom de leur liberté, mais ils n'avaient pas le choix.
Vous avez raison, c'est comme le seppuku ou harakiri japonais, qui était en fait le substitut de la peine de mort pour les grands personnages quand l'empereur leur en donnait l'ordre. Mais un stoïcien est capable aussi de se suicider s'il en a assez de la vie. C'est ce qu'on appelle le suicide par
caprice.
Par caprice et par lassitude de vivre, nous appellerions ça de la dépression.
C'est le taedium vitae.
C'est le taedium vitae qu'on appellerait de nos jours mélancolie suicidaire.
Voilà, alors l'expression est de Lucrèce, hein. Bizarrement. Alors pourtant que Lucrèce est un interprète d'Épicure, hein, qui est donc, comme son nom l'indique, hein, le maître à penser de l'épicurisme. Quelle place occupe chez les Romains ce dégoût de l'existence qu'on baptisera spleen plus tard?
Je crois que c'est ce qu'on baptisera spleen et qui existe de nos jours, dont on voit bien la réalité, dans ce qui s'appelle la dépression. Il y a chez Sénèque la description ahurissante d'une dame qui a perdu un fils, il est vrai, remarquable, son fils unique, et depuis désespéré, elle vivait complètement recluse.
Marcia.
Sénèque en parle en disant, mais quelle absurdité, quelle sotte conduite. Il ne se rend pas compte que c'est une conduite que nous appellerions aujourd'hui pathologique relevant du médecin.
Revenons à l'évergétisme avec vous, Paul Venn. Je vous cite. Tout notable municipal est tenu par une sorte de morale de classe,
oui,
de faire au peuple des libéralités. Le peuple attend cela de lui. Les sénateurs romains, de leur côté, distribuent des cadeaux symboliques à leurs partisans et à leurs soldats, pratiquent ouvertement une sorte de corruption électorale. L'empereur lui-même assure à la ville de Rome du pain à bon marché et des combats de gladiateurs, et ses sujets affirment volontiers qu'il est le premier évergète de son empire.
Oui.
Donc l'empereur romain est le premier
Il se doit, en tant que grand personnage, d'avoir le geste large.
Est-ce qu'on peut parler du don d'un individu à la collectivité dans ces cas-là? Quelqu'un qui fait don de lui-même, presque.
Oh, je crois que leur sens de l'autorité est tel qu'ils n'auraient pas prononcé une chose pareille.
Alors, vous distinguez, hein, il faut restons sur l'évergétisme encore,
oui,
un peu,
sur
cette pratique, donc sur cette obligation implicite, finalement non écrite, et pourtant inscrite dans les mœurs et les usages romains, de faire, donc pas don de soi, mais don d'une partie de ce qu'on a, quand on en a les moyens. Oui. Vous distinguez trois cas, les notables, les sénateurs et donc l'empereur lui-même. Quelle différence est à faire entre ces trois cas-là?
Eh bien, seul l'empereur a le droit de faire des cadeaux à Rome. Lui seul a le droit de construire des bâtiments dans Rome. Rome, c'est sa ville, et il ne veut pas qu'un autre brille à sa place et à côté de lui.
Alors, le paradoxe, c'est que bien souvent, on présente le pain et le cirque.
Oui.
Bon, cette expression, disons, gardons-la comme une métaphore.
Oui.
Disons, les divertissements qu'on distribue au peuple, on les présente comme un outil de dépolitisation.
Non.
Hein? On les présente bien souvent, mais aujourd'hui, comme un outil de dépolitisation. Or, c'était le contraire. À vous entendre et à vous lire, on comprend
Mais bien sûr.
C'était le contraire. C'était au contraire un ferment de politisation.
C'est un ferment de politisation et c'est un droit qu'a le peuple. C'est l'équivalent de la sécurité sociale de l'époque. Le peuple a le droit qu'on lui donne des spectacles, sans quoi il sera très mécontent.
Donc le peuple a le droit à la corruption de ceux qui le gouvernent,
Si vous l'appelez corruption, le peuple a le droit...
L'achat de sa ferveur, en tout cas.
Les spectacles sont le signe d'une société prospère et civilisée, du retour à la prospérité. Dès qu'une ville a été saccagée par les barbares, que ce soit Trèves ou telle autre ville à qui ça arrive... Le signe du retour à la paix et à la prospérité, c'est qu'on rétablit les jeux. Le peuple a droit donc de vivre dans une société prospère. Il ne demande pas la sécurité sociale ni le RMI, il demande les signes de civilisation auxquels il a droit, les signes de son divertissement qui sont les jeux. On paiera ce qu'il faut et l'Empire revient à paix, en paix, si cette marque de civilisation... Et enfin restauré. D'où la fureur des chrétiens qui constataient que le premier soin d'une ville rebâtie après un raid des barbares était de rétablir les jeux qui montrent que tout maintenant va bien.
Je voudrais savoir si, donc on a bien vu le paradoxe selon lequel l'évergétisme ne dépolitise pas, mais au contraire politise le peuple.
Bien sûr, mais... c'est comme si on disait que la sécurité sociale dépolitise les gens.
Voilà, mais est-ce qu'il faut y voir une vertu? Une vertu qui serait l'apanage, en somme, des fortunés de l'époque, qui se considéreraient comme le modèle, le paradigme de l'humanité. Donc une vertu qu'Aristote appellerait la libéralité, par exemple.
Oui.
Ou bien, est-ce qu'il faut y voir malgré tout un calcul?
Je pense que les deux parties sont d'accord. Le peuple a autant envie de sa culture qu'il a envie aujourd'hui de football. Bon, il exige ça. Si on ne lui donne pas, il n'est pas content. Si, Dieu merci, tout se déroule comme il faut, s'il y a des spectacles, c'est le signe que la paix et la prospérité sont revenus, doivent payer ceux qui ont à payer. Qu'on lui donne ce qui est sa part de luxe, sa part de culture.
Luxe et culture, vous l'employez en...
Le football est une culture populaire, comme peuvent l'être la poésie ou la musique classique pour d'autres.
Je vous cite, hein, Paul Venn, le paradoxe de l'évergétisme est qu'il s'est imposé à toute une classe alors qu'il n'était pas obligatoire. Des différentes formes de contraintes sociales, la violence, la loi, le marché, le commandement personnel, la pression informelle de l'opinion publique, l'évergétisme n'a subi que la dernière. C'est uniquement l'opinion publique qui détermine
C'est uniquement l'opinion publique et la pression informelle, oui. Mais ça suffisait.
C'est-à-dire
Sans ça, on était indigne et on ne se retrouvait pas au conseil municipal de sa cité. On ne faisait plus partie de l'oligarchie.
Est-ce que l'évergétisme est pour quelque chose dans ce qu'on appellera plus tard, à Rome d'ailleurs, la charité chrétienne? Est-ce qu'il y a quelque chose de cette... Parce qu'on peut aussi considérer que c'est un comportement charitable, et je le dis ici le sens péjoratif qu'on peut attribuer à la charité de temps en temps, c'est-à-dire à l'espèce de paternalisme qui éventuellement l'accompagne. Est-ce qu'on peut parler ici, à l'origine de l'idée de charité chrétienne, cette idée antédiluvienne pourtant, post-diluvienne, est-ce qu'on peut situer l'évergétisme à l'origine de cette idée-là?
Eh bien... Vous parliez du public et du privé, l'évergétisme a un caractère public. on ne fait pas la charité à des individus pauvres ou méritants, on donne des spectacles au peuple ou on bâtit au peuple un édifice de bain qui sera l'équivalent d'une plage, de Paris-Plage, de Delanoë. Bon, mais ça n'a rien à voir avec la charité chrétienne qui s'adresse ou est censée s'adresser aux pauvres.
Oui, c'est le Deutéronome qui dit « tu ouvriras ta main aux pauvres ».
Voilà, reste à savoir la réalité. Mais enfin, pour stéréotyper, l'évergétisme est public, collectif, ne s'adresse pas à des individus.
Pas à des individus, jamais.
Jamais. La charité s'adresse soit à des individus très pauvres, soit à des individus, quand même, des gens de bonne famille, des veuves de bonne famille, ou des veuves, ou des filles de famille noble qui, malheureuses, sont tombées dans la misère, on en constitue une dot. Il y a une certaine hypocrisie sur la charité chrétienne. Je parle des premiers siècles.
Alors, ce n'est pas au lecteur de Nietzsche que vous êtes que je vais apprendre que l'aumône est évidemment suspecte dans la mesure où bien des philosophes, à commencer par Spinoza, puis Nietzsche à sa suite, ont fait de l'aumône un calcul, une spéculation supérieure qui consisterait à dire ce que je donne, finalement, j'en récupérerai les dividendes dans l'au-delà. Et en somme, c'est un calcul où je trouve mon compte. Est-ce que ce raisonnement, c'est-à-dire finalement le raisonnement de la bonne conscience ou du principe de récompense,
d'accord,
est-ce que ce raisonnement est recevable dans une société comme celle de Rome, c'est-à-dire une société où les dieux sont mêlés aux humains et où la question de la transcendance est posée dans des termes très différents? Je suis même pas sûr qu'on puisse parler de transcendance,
oui,
d'ailleurs.
Oui, je crois comme vous. Je crois que les rapports entre les dieux et les hommes sont de caractère international, si j'ose dire.
Vous voulez dire inframondain?
Je vais vous donner un exemple très simple. Un prince très aimé, vers l'an 40, meurt à Rome. Le peuple furieux va lapider les temples des dieux, comme on va bombarder avec des cocktails Molotov une ambassade dont on n'est pas content.
On dirait Xerxès qui ordonne de fouetter la mer après la défaite de Salamine.
Exactement. Oui, c'est exactement ça. Évidemment, c'est pas concevable dans le monde chrétien. Mais la grande différence, c'est la charité chrétienne s'adresse à des individus qui en ont besoin, que ces individus soient de vrais pauvres ou soient des pauvres de bonne famille. L'évergétisme, par définition, s'adresse à un caractère public. Vous m'interrogiez sur le public et le privé, eh bien voilà une différence. On bâtit un monument pour le public, on donne des jeux au public.
Oui, mais c'est un individu privé qui fait ça. C'est
oui,
là qu'il y a une
oui,
confusion des deux registres, non?
Bien entendu, au lieu de payer l'impôt au centime près, l'individu se met en avant, ou satisfait aux revendications qu'on lui adresse comme individu, par une générosité publique.
Si aujourd'hui un homme extrêmement riche décidait de créer une université, par exemple, si on était à Rome, il n'y aurait pas de problème. En France, c'est inimaginable.
Ne me dites pas ça, ne me laissez pas supposer ça. J'ai peur.
Mais alors justement, ce qui prouve que vous n'êtes pas romain, Paul Venn.
Moi, non.
Non, mais c'est une pratique qui, à Rome, un Romain n'y trouverait rien à redire.
Ni à Rome, ni aux États-Unis.
Est-ce qu'on peut parler de l'émergence avec cette pratique, et donc avec les confusions qu'elle implique, de l'émergence de l'idée de redistribution?
Je ne peux pas y croire. Les riches, les puissants, sont dignes de leur richesse. Et puisqu'ils sont puissants, doivent être riches, avoir de beaux bâtiments, avoir de la richesse. Non, je ne crois pas à l'idée de redistribution. Jusqu'au 19e siècle, l'autosatisfaction de la richesse est totale.
Alors là, pour le coup, c'est un héritage aristotélicien. L'idée d'autarcie, celle du riche qui, en somme, se suffit à lui-même, qui ne donne que par surabondance.
Oui, je n'y avais pas pensé. Oui, vous avez raison.
Ça, ce sont les poils de ma toute première barbe. C'est que j'avais tout d'un homme déjà à 14 ans. Ah, et puis ça, ce sont mes dieux là. Les protecteurs de toutes mes propriétés. Rafle tout, gagne gros et accumule encore. Propice nous soient les dieux.
Un jour, un riche et un pauvre discutaient ensemble grand chose.
Qu'est-ce que c'est un pauvre?
Oh, vraiment, celle-là, elle est bonne.
Bon, je m'en vais sur le pot.
La journée passe comme trois fois rien, le temps de se retourner, voyez, il fait déjà nuit. Alors il ne nous reste vraiment qu'à nous traîner du lit à la table. Il faisait déjà froid et le bain à peine réchauffé. Hélas, nous sommes moins que les mouches qui offrent au moins une certaine résistance. Mais nous, rien, nous ne sommes que des bulles qui crèvent.
Le plomb dans ses mains changeait en or, il était plus noir qu'un corbeau. À 70 ans passé, il était continuellement en rut. Il n'épargnait personne, pas même le chien de la maison.
Restons quand même, là encore, sur l'hébergétisme. la différence entre le mécénat et les vergétismes viendrait peut-être à ce moment-là du fait que le mécénat est moins désintéressé que les vergétismes, à vous entendre.
Ou plus désintéressé. Ce n'est pas en devenant mécène qu'on deviendra ministre. Voilà la différence. Il y a eu une époque ancienne jusqu'au XIXe siècle où toutes les fonctions se mélangeaient. Si on était riche, on était en même temps membre de la classe dirigeante, on était en même temps gouvernant en personne, on était en même temps cultivé. Toutes les supériorités étaient cumulatives. Depuis le XIXe siècle, tout ça s'est séparé. Il y a les hommes politiques qui sont avocats, instituteurs, professeurs ou Dieu sait quoi. Il y a ensuite les milliardaires qui font leur métier qui est assez prenant, mais ça ne se mélange plus. Les fonctions se sont séparées.
Je vous lis. On était vergète parce que c'est indispensable pour se faire élire ou plus généralement pour se rendre populaire auprès des citoyens.
Oui.
C'est vous qui l'avez écrit. Ah. À quoi j'ai envie de vous opposer ? Parce que vous le faites vous-même. Aristote, qui dans l'éthique à Nicomaque, oui, explique que les bienfaiteurs aiment ceux auxquels ils ont fait du bien, parce qu'ils s'y retrouvent en somme,
oui,
bien plus que les obligés n'aiment leurs bienfaiteurs vis-à-vis desquels ils se sentent coupables. Alors est-ce que c'est un mauvais calcul ? Est-ce qu'en somme celui qui donne ne court pas le risque qu'on lui reproche à jamais d'avoir donné ?
Mais
que le bénéficiaire ne lui pardonne pas le cadeau qu'il a reçu ?
Mais bien entendu, et dans le monde romain, il y a un ressentiment latent contre les riches. Bien sûr, un tel nous a donné un spectacle de gladiateurs. Oui, bon, c'est bien généreux de sa part, mais avec la richesse qu'il a, c'est normal. Mais d'un autre côté, son spectacle de gladiateurs était miteux, ça, vraiment, c'était dégueulasse. Il y a le ressentiment de l'obligé envers celui qui l'oblige. Et j'ose dire que c'est un ressentiment normal, parce que personne n'aime être infériorisé.
Est-ce que c'est sur ce ressentiment que César a spéculé pour obtenir la popularité qui fut la sienne ? Est-ce qu'en somme, César n'a pas appliqué la recette machiavélienne du prince qui enjambe les puissants pour nouer un lien avec le peuple, par-delà ceux qui, sur le dos du peuple, donc, se font valoir et se font glorifier ?
Je pense que oui et que...
En somme, ce serait la naissance de la démagogie, si j'ose dire.
Oui. C'est bien pour ça qu'il a été assassiné, parce que la recette était imparable.
Mais il a été assassiné par les puissants.
Par les autres oligarques,
voilà,
qui ne savaient pas aussi bien faire que lui.
Ça veut dire qu'il y a dans la politique à Rome, déjà, on retrouve quand même des éléments alors, qui sont étonnamment, comment dire, utiles pour comprendre des comportements aujourd'hui. Voilà une pratique consiste donc à donner de sa fortune de façon presque institutionnelle, hein, c'est presque obligatoire.
Oui, institutionnelle.
Mais c'est en même temps une pratique dont on ne perçoit pas les dividendes ou dont on perçoit pas toujours les dividendes dans la mesure où ça suscite chez le bénéficiaire un ressentiment bien naturel. De ce point de vue, il y a aussi des tyrans qui, spéculant sur le ressentiment populaire et sur ces comportements-là, en profitent pour asseoir une popularité nouvelle.
Oui, l'empereur joue en effet une position transcendante par rapport à ces bagarres d'oligarques entre eux pour devenir populaire, en posant qu'il est la grande légitimité qui fera régner la paix. Au lieu que les oligarques continuent à se battre entre eux, soit à coups de cadeaux au peuple, soit les armes à la main avec leurs armées personnelles, eh bien il y aura désormais un pouvoir suprême qui fera taire les bagarres entre oligarques parce qu'il sera le seul chef.
Alors il y a une pratique qui est aux antipodes de l'évergétisme, en tout cas qui est d'une autre nature, c'est le pain d'État, le blé d'État.
C'est-à-dire, oui.
Alors là, on est dans un autre registre. On a vu le cirque, parlons du pain un instant, Paul Venn, les distributions gratuites de blé à la plèbe
savoir
de la ville de Rome, c'était une institution sociale d'État.
Oui.
Un service public, en somme.
Un service public, un privilège public. Parce que ça ne s'adresse pas aux pauvres, ça ne s'adresse pas à ceux qui en ont besoin. Ça s'adresse à ceux qui, traditionnellement, y ont droit, et qui peuvent être fort riches, et qui peuvent revendre en plus leur ticket. C'est pour marquer la supériorité de la ville de Rome, en faire une capitale alors qu'elle ne l'est pas tellement, c'est pour montrer la supériorité de la ville conquérante sur les autres. Alors on distribue à des gens, pauvres ou non, la question n'est pas là, tout le monde s'en fiche, on distribue du pain venu à titre d'impôt des provinces. C'est pour marquer Rome comme capitale, c'est tout.
Alors, mais du coup, la loi gracchienne, c'est autre chose. Oh, ça, pour le coup, c'est le RMI, la loi gracchienne.
La loi gracchienne, c'était tout autre chose. On a un problème. À Rome, ça se situe 120 ans avant ces événements impériaux dont nous parlons, qu'il y a des citoyens romains, et c'est pas rien, un citoyen romain, qui sont pauvres, qui crèvent de faim, qui n'ont plus de terre. Alors, il y a eu le projet, non pas de faire des bénéfices aux pauvres, c'est un projet étatique, c'est un projet de pouvoir. Reconstituer un corps puissant de citoyens, solides, ayant des terres, ayant de quoi manger, reconstituer un corps civique puissant.
Une classe moyenne.
Merci. De reconstituer une classe moyenne qui sera le peuple romain, le vrai solide, qui n'est plus en proie à la misère, aux sollicitations des riches et tout ce qu'on veut. Alors, c'est un projet civique.
Mais comment?
Pour faire la force de Rome.
Comment comprendre si l'évergétisme n'est pas ce qu'on a dit, ce qu'on pouvait penser que c'était. Si l'évergétisme n'est pas le RMI, ni même une façon d'obtenir les suffrages, ni même la charité, ni même tout ça, etc. Comment comprendre les diatribes, c'est le cas de le dire, de Cicéron contre l'évergétisme, au motif que l'évergétisme, comme la distribution de pain, habitue, dit-il, la plèbe à l'idée qu'elle a des droits sociaux, qu'elle a droit au bonheur et qu'elle n'a pas le seul devoir d'obéir en silence à l'élite pour la grandeur de la patrie. Je cite l'aimable Cicéron,
oui.
Là.
Eh ben, c'est une position de droite. C'est le hideux matérialisme des masses dont parlait un député de droite en 1936. Le peuple n'a qu'à obéir. Il y a un cas encore plus extraordinaire. Thomas Paine, ce grand ennemi de la Révolution française, vers 1787, je ne garantis pas la date, suppliait à la Chambre des Lords ou à la Chambre des Communes, je ne sais plus, les gens de ne pas secourir les pauvres laboureurs dont les récoltes avaient été détruites par les intempéries. Parce que si on se met à condescendre aux revendications populaires, où va-t-on ?
En somme, l'argumentaire, si on est de droite, pardon des anachronismes,
oui,
mais bon,
oui, d'accord.
L'argumentaire, c'est de dire, dans un cas, on fabrique de l'assistanat à une société d'assistés, on les infantilise, etc., etc.
Oui.
Et dans l'autre, c'est de dire, il n'y a pas de liberté formelle sans liberté réelle.
Oui,
il n'y a pas de liberté d'être dans la cité, de s'investir dans les affaires publiques, sans liberté de manger, tout simplement.
Oui, mais eux ont une troisième position, que les gens mangent ou pas, c'est vraiment pas leur problème. Leur problème, c'est la plèbe n'a qu'à obéir, elle n'a pas à revendiquer, on en a marre. Ou bien, faisons une classe civique puissante en redistribuant les terres. C'est la solution des Gracques. Dans aucun cas, il ne s'agit, bien entendu, d'une chose sociale comme nous la connaissons depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. Dans tous les cas, c'est ou bien imposer l'obéissance, ou bien faire un corps civique digne de ce nom et solide.
Merci Paul Venn, et à toutes fins utiles, je renvoie l'auditeur à votre livre impressionnant, Le pain et le cirque, désormais disponible au Seuil dans l'excellente petite collection Point Histoire. Demain, en votre compagnie, nous parlerons de plaisir, de sexualité, mais aussi du mariage. On verra notamment que dans la Rome antique, le critère moral n'était pas celui de l'homosexualité ou de l'hétérosexualité, mais celui plus subtil et tout aussi rigoriste de l'activité ou de la passivité. À demain donc, 19h30, ou à tout de suite, si le cœur vous en dit, sur notre site internet www.franceculture.com, à la page des nouveaux chemins de la connaissance. À la technique aujourd'hui, c'était Christian Chazalon et Axel Brizard. À la réalisation, François Connac, assistant de coordination, travail en amont et soutien psychologique, Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richer. France Culture, il est 20h.